au cours de la semaine et j'ai pioché des morceaux choisis. Alors nous allons aller ensemble dans cet évangile pour prendre d'ici, de là, des passages et retirer de simples enseignements parce que c'est lui notre exemple, c'est le Seigneur. Amen. Pourquoi quatre évangiles dans la Bible? Il me semble, si on est assez méthodique et qu'on lit toute la Bible et pas toujours les mêmes livres, bien, ça nous permettra de lire quatre fois la vie de Jésus. Parce qu'il me semble que c'est quand même très important de revenir sans cesse à la vie de Jésus, d'avoir les yeux fixés sur lui. Quatre évangiles, bien sûr, parce que d'après la loi, il fallait au moins deux, voire trois témoins. Ça, ce sont les évangiles synoptiques. Les trois premiers évangiles sont des évangiles témoins. Ils disent à peu près la même chose, avec des différences, mais ces témoignages se recoupent pour nous assurer que c'est bien la vérité. Alléluia. Le quatrième évangile est un peu différent. C'est un évangile, alors excusez-moi du terme, didactique, c'est-à-dire qui est là pour enseigner, pour davantage que l'on comprenne ce que Jésus a fait. Par exemple, il n'y a que dans l'évangile de Jean qui nous explique après la multiplication des pains que Jésus, c'est le pain de vie. Et c'est grâce à Jean que l'on peut commencer à comprendre que tous les miracles et toutes les guérisons de l'évangile sont réelles, mais elles sont aussi une image, un symbole de bien des enseignements. Quand Jésus guérissait les boiteux, c'est pour nous dire aussi que Jésus veut bien nous guérir, nous qui boitons dans la vie, moralement, spirituellement, et qu'il veut nous faire bien marcher dans la vie. Alléluia. Mais allons dans Matthieu chapitre 9, maintenant verset 35 au verset 38. Matthieu chapitre 9, verset 35. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Alors ce qui m'a touché quand j'ai lu cet évangile, c'est de lire « Jésus parcourait toutes les villes ». Amen. Il n'en a manqué aucune. Il est allé partout. Nous chantons parfois « Portons la nouvelle partout ». Répandons-la autour de nous. Amen. Jésus est allé partout. Et d'ailleurs, on va faire peut-être une petite digression, si vous voulez bien, dans Luc chapitre 4, on voit quand même que c'était pour Jésus primordial. C'était le sens de sa mission. Dans Luc chapitre 4, verset 42, je vous lis, mais n'hésitez pas à trouver la référence pour le lire avec moi. « Dès que le jour parut, » donc très tôt le matin, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues des villes, de la Galilée. Amen. Même quand il y avait ce que nous appellerions aujourd'hui un réveil, et que les gens insistaient, reste, reste Seigneur. Elle disait non, il faut que j'aille aussi ailleurs. Il faut que je parle à tout le monde. Rappelons-nous que c'est notre mission. Amen. Nous sommes appelés à aller répandre la bonne nouvelle autour de nous. Nous voudrions une église en bonne santé pour accueillir les perdus. Amen. Nous ne voulons pas être une église en bonne santé pour nous-mêmes, être heureux entre nous. Mais nous voudrions ici que ce soit un lieu favorable pour le salut et le développement de ceux que Dieu appellera à lui. Amen. C'est fondamental de grandir dans une bonne assemblée, de grandir dans une assemblée unie, dans une assemblée solide, dans une assemblée où il y a une bonne atmosphère. Il ne suffit pas de mettre au monde un bébé, mais le foyer familial, ça va être déterminant pour ce que ce bébé deviendra en tant qu'adulte. Nous ne voulons pas offrir à ceux du dehors un mauvais foyer. Nous aimerions que notre assemblée soit prête pour s'occuper de ceux que le Seigneur ajoutera à l'Église. Amen. Nous avons une responsabilité. Jésus est ému de compassion quand il voit la foule. Est-ce que cela ne nous manque pas un peu parfois? Vous vous rappelez de la parabole du bon samaritain? Il y avait un lévite, il y avait un sacrificateur, mais il passa outre. Ils étaient indifférents, insensibles. Et le bon samaritain, ses entrailles étaient là. Jésus ému de compassion. Je voudrais vous le dire, nous ne voulons pas que notre Église grandisse numériquement parce que c'est la réussite. Et je regrette qu'il y ait eu beaucoup ces dernières décennies de séminaires, de livres, écrits, comme pour donner des clés de la réussite, pour qu'une Église grandisse numériquement. Mais on est très éloigné de cette compassion de Jésus-Christ. Notre motivation n'est pas que notre Église grandisse pour nous faire un nom, ou qu'un pasteur se fasse un nom. Ce qui doit se trouver dans nos cœurs, c'est l'amour et la compassion pour les perdus. Les gens sont malheureux, les gens sont perdus, vraiment. Et nous voudrions, dans la présence de Dieu, être renouvelés dans cette compassion des âmes. Amen. Vous pourriez dire, oh, moi j'aimerais bien qu'une église elle grandisse, mais pourquoi? Pourquoi? Pour être content que votre église grandisse? Ah non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des âmes qui soient guéries, qui soient consolées, qui soient sauvées. Alléluia. Et je crois que l'orgueil est une puissante motivation. Pour faire grossir une église, on peut avoir beaucoup de motivation, mais la motivation de Jésus-Christ, ce n'est pas la réussite, c'est la compassion. Il voit les gens, ils sont perdus. Que le Seigneur nous rappelle qu'il y a autour de nous beaucoup de perdus, que les gens ne sont pas bien, ils sont languissants, ça ne va pas chez eux. Et ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Alléluia. Et puis nous sommes dans l'ère de la moisson. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'ai dû mettre du temps pour le croire. Il y a des années, quand j'ai lu ce passage, j'ai été repris par la parole de Dieu. Parce que c'est vrai, en France, c'est difficile. Que des églises grossissent par l'apport de chrétiens d'autres églises en faisant des choses qui plaisent, ça existe, des assemblées qui peuvent passer de 50 à 400, parce que des chrétiens sont intéressés par ce qui s'y passe dans cette église, ça on le vit en France. Mais par contre, que des églises grandissent, parce que Dieu touche des cœurs et que des gens du dehors se convertissent et se repentent, ça c'est beaucoup plus rare. Alors je me disais, c'est un temps difficile, et c'est vrai, la parole de Dieu dit que dans les temps de la fin, il y a des temps difficiles, c'est vrai. Mais quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais en fait, nous sommes dans le temps de la moisson. Bibliquement, la moisson commence avec la première venue de Jésus et se terminera à son retour. Nous sommes dans le temps de la moisson. Amen. C'est comme cela. Et si on est objectif, parce que souvent on a toujours les yeux fixés sur nous-mêmes, mais si on prend un peu de recul, jamais comme aujourd'hui, il n'y a autant de personnes qui se convertissent à Jésus-Christ dans le monde entier. Alléluia. Il y a une œuvre mondiale. Hein, avant la mondialisation, le salut est devenu universel grâce au Sauveur du monde. Alléluia. Et nous sommes dans le temps de la moisson, où des nations, des tribus entendent parler de l'Évangile et se convertissent, et en France aussi. Je comprends bien que là, il y a des des périodes, des temps de Dieu pour les pays, pour les nations, je le comprends bien. Mais même s'il y a des moments où la moisson est plus abondante ailleurs, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas ici. Elle existe aussi ici. Alors peut-être que nous ne verrons pas des centaines et des milliers de conversions tant que ce n'est pas le temps de Dieu. Parce que là aussi, le réveil. Est-ce que c'est nous qui fabriquons le réveil? Excusez-moi, je vais vous décevoir. Moi, je crois qu'il y a aussi des temps de Dieu, que Dieu est souverain. Et qu'on a beau crier, hurler, faire tout ce qu'on veut. Eh bien, si ce n'est pas un temps de Dieu particulier, eh bien, nous serons appelés à être fidèles, sans avoir beaucoup de résultats, et à glorifier Dieu. Alléluia. Mais même s'il n'y aurait pas beaucoup de résultats, je crois que l'évangile est puissant et qu'il y aura toujours de la moisson pour toutes les assemblées locales. Alléluia. Et nous sommes, nous, dans la moisson. Le Seigneur va sauver des âmes autour de nous. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. C'est le Seigneur qui sauve. Amen. Nous sommes dans ce temps de moisson jusqu'au retour du Seigneur. Est-ce que vous aimeriez travailler dans cette moisson? Gloire à Dieu. Parlez parce qu'on est dans le temps de la moisson. Si vous ne réalisez pas qu'on est dans le temps de la moisson, vous ne parlerez pas parce que vous n'y croirez pas. Mais nous sommes dans le temps de la moisson. Des gens croiront à cause de ce que nous aurons dit. Alléluia. Parce que le Seigneur se manifestera. Allons dans Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. Maintenant, s'il vous plaît, je ne veux pas être trop long à chaque fois. Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péagers et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la moisson, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Alors, ce qui est très beau dans l'Évangile, c'est de voir le Fils de Dieu manger avec des mauvaises personnes. C'est magnifique. N'oublions pas d'où nous venons. Alors, peut-être vous êtes descendant de chrétiens. Alors, si vous êtes descendant de chrétiens, c'est sûr qu'en général, quand on fait une étude un peu sociologique, on pourrait faire une étude sociologique de l'Église, la première génération, celle qui a été sauvée et qui était dans le monde, souvent était dans les difficultés. Et puis les enfants de chrétiens, les petits-enfants de chrétiens, petit à petit, c'est différent. Ils sont bien éduqués dans le Seigneur, ils font de bonnes études, et rapidement, la catégorie sociale change. Alors, peut-être c'est plus difficile pour vous qui êtes descendants de chrétiens de vous dire que vous faisiez partie de ces pécheurs. Ce qui peut-être vous aider, c'est de vous rappeler, alors si c'est vos parents ou vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, je ne sais pas, où est-ce que le Seigneur est allé les chercher? Souvent, Dieu a rappelé à Israël ceci. Rappelle-toi d'Abraham. Il était d'Our en Chaldée. C'était... Abraham ne connaissait pas Dieu au tout départ. Our en Chaldée était une cité mésopotamienne caractérisée par le paganisme et notamment le culte de la lune. Abraham vient d'une ville païenne. Abraham, avant de connaître l'Éternel, vient de loin. N'oublions pas d'où nous venons. Amen. Et le Seigneur est venu dans notre misère. Alléluia. Il est venu manger à notre table. Dieu soit béni. Ne soyons pas bourgeois. Je parle de l'état d'esprit, je ne parle pas du portefeuille. Si vous avez un portefeuille de bourgeois, tant mieux pour vous et je vous le souhaite. Mais je parle de l'état d'esprit. Ne soyons pas des bourgeois. Si lui a cheminé avec les pécheurs, qui sommes-nous pour mépriser les autres et les regarder de haut? ne pas aller vers eux, ne pas parler avec eux, ne pas les aider, ne pas les inviter même. Nous invitons ceux qui nous ressemblent souvent. Quand Jésus nous a demandé d'inviter ceux qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, pour pouvoir nous réinviter ensuite. L'hospitalité dans la Bible, ce n'est pas s'accueillir entre chrétiens. L'hospitalité, c'est accueillir l'inconnu. L'hospitalité, c'est accueillir celui qui est dans le besoin. Et notre culture occidentale est très éloignée de cette hospitalité. Mais au final, sans que nous nous en rendions compte en tant que chrétiens, est-ce que l'on ne s'éloigne pas quand même de cette compassion qui a conduit Jésus à cette proximité des pécheurs, des gens de mauvaise vie? Amen. Alors déjà, peut-être nous pourrions essayer dans notre assemblée que quand des pécheurs et des gens de mauvaise vie viennent, nous puissions déjà aller vers eux, les saluer, prendre le temps de discuter, de s'intéresser à leur vie. Et au-delà des réunions, que le Seigneur touche nos cœurs pour que nous puissions nous rappeler que notre mission, c'est pas d'être heureux dans notre bourgeoisie, mais c'est de rester humble pour aider ceux qui sont dans la difficulté. Jésus dit, moi je suis un médecin, je suis pas venu pour ceux qui vont bien. Il y a deux sortes de médecins aujourd'hui, je crois. Il y a le médecin qui continue d'exercer parce que il aime ce qu'il fait, c'est sa vocation, c'est guérir les autres. Et puis il y a le médecin qui fait ça avec le temps, il y en a pour l'argent. Le serment d'Hippocrate, il est formidable, mais tous les médecins ne le suivent pas. Et c'est deux genres de médecins différents quand même, vous ne trouvez pas? Restons avec ce cœur du médecin qui était Jésus-Christ, ce médecin qui allait chez les gens et qui s'occupait d'eux pour les soigner. D'ailleurs, j'ai une remarque à faire. Si Jésus allait chez les pécheurs, ce n'était pas pour faire la fête avec eux. Parce que parfois, certains chrétiens peuvent se retrouver dans des fêtes mondaines avec les mondains et de dire « Mais Jésus allait avec les pécheurs !» C'est vraiment dommage de prendre le nom de l'Éternel en vain, d'utiliser Jésus-Christ, le Saint de Dieu, pour justifier notre mondanité. Nous ne respectons pas Jésus-Christ, je pense, parfois, quand nous prenons son nom pour justifier ce qui n'a aucun rapport avec ce qu'il a fait. Jésus n'allait pas chez les gens pour danser avec eux, pour boire avec eux, pour faire n'importe quoi avec eux. Jésus allait chez les gens pour les soigner. Amen. Un médecin qui va chez des gens, c'est pas pour s'amuser avec eux, c'est pour s'occuper d'eux. Alors je crois que nous, chrétiens, nous avons certainement à côtoyer les gens du monde, mais sans leur ressembler. Et je crois pas qu'il faut être ami du monde pour gagner le monde. Parce que Jacques dit, celui qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors il faut à la fois être saint, et à la fois être compatissant. Amen. Si on est trop compatissant, sans cette sainteté, nous allons être des sentimentaux et nous ferons des erreurs. Mais si nous sommes saints, sans cette compassion, nous allons devenir des religieux, froids et méprisants. Que nous puissions ressembler à Jésus dans tout cet équilibre. Amen. Il était à la fois saint et proche. Compatissant. Notre sainteté, parfois, nous éloigne de ceux que nous pourrions aider. Allons dans Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 25. Matthieu, chapitre 14, verset 13. Matthieu 14, 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, donc il était parti en barque pour aller se trouver un coin tranquille pour prier, Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea, c'est écrit. Pourquoi ? Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Donc il oblige les disciples, il renvoie la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta enfin sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Amen. Pourquoi l'arrêter cette lecture ici? Bien, quand je l'ai lu, j'ai remarqué cette soif, ce besoin que Jésus avait de ne rien faire, mais de s'isoler, d'aller à l'écart pour trouver Dieu, son Père. Et même comme il y avait trop de monde, comme il y avait trop à faire, il s'est dit, je vais prendre la barque, je vais traverser la mer. Et là, je vais monter sur la colline, je vais enfin me ressourcer, je vais retrouver papa. Il paraît qu'Abba, Abba père, Abba, il paraît que c'est plus papa que père. Je crois qu'il y a des gitans des fois qui disent papa à Dieu quand ils prient. Oui, il avait besoin de son père, de son papa. Mais il traverse cette mer, c'est un grand lac, c'était appelé aussi une mer. Les gens affluent encore. Et là, il est touché, il est ému de compassion une nouvelle fois. Alors, il ne peut pas prier. Il faut qu'il s'occupe des gens. Il le fait. Mais tout en le faisant, j'imagine, ce n'est que de l'imagination, que son besoin était encore là. En tout cas, à la fin de la journée, il oblige. Allez, partez, partez. Et là, il renvoie la foule. Allez, j'ai besoin. Et enfin, il peut se retrouver avec son Père. Vous avez vu comment le Seigneur Jésus avait besoin de se retrouver seul. Quand il a enseigné les autres en disant, quand tu pries, entre dans ta chambre, va dans ta pièce la plus reculée, et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Il enseignait ce qu'il vivait tous les jours. Tous les jours, il avait besoin du lieu secret avec son Père. Et il est même dit, alors on ne l'a pas lu parce que c'est au verset 25, qu'il a prié jusqu'à la 4e veille de la nuit. Elle démarrait, je pense, à 3h du matin, la 4e veille de la nuit. Ça veut dire que et la journée était harassante quand même. Il était de l'autre côté d'une mer, il avait déjà bien travaillé. Il traverse la mer, il continue pendant des heures à bien travailler pour la foule, mais son besoin spirituel l'emportait sur son besoin physique de sommeil. Alors je ne dis pas qu'il faut vous forcer à faire ça, parce que si vous vous forcez à faire ça, ça peut très mal se terminer. On a connu, et c'est dramatique, quelqu'un qui était tellement excessif qu'il a fait plus de 40 jours de jeûne et prière pour faire comme Jésus, et il en est mort. Ah, je suis désolé, ce n'est pas un témoignage très édifiant, mais il ne faut pas copier Jésus comme ça. Le Seigneur avait tellement ce besoin spirituel, ce manque du Père, qu'il manquait de sommeil pour ça. C'était un manque plus important. Oui, nous avons, alors, la leçon à retirer, eh bien, que le Seigneur puisse nous donner la soif de Dieu. Amen. Et là, on peut lire peut-être le psaume 42 rapidement. Psaume 42. Le psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu, hein, cette aspiration. Et puis le psaume 63, ce sont les deux psaumes où il est question de la soif de Dieu. C'est un psaume de David quand il était dans le désert de Juda. Alors dans le désert, on a soif, hein, mais il ne parle pas de ça. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre desséchée sans eau. Amen. C'est beau ça. Vous comprenez ce que David dit? Il dit, dans le désert, c'est pas d'eau que j'ai soif. Mon corps, c'est pas d'eau dont il a besoin. Dans ce désert, c'est mon âme qui a soif de toi. Et mon corps soupire après toi, plus que l'eau dont il a besoin dans le désert. Magnifique cette parole quand même. Hein, ce besoin. Frères et sœurs, avez-vous besoin de retrouver Dieu dans vos semaines? Si vous n'avez plus ce besoin, cette soif, confessez-le à Dieu. Vous vous êtes éloigné de lui. On a soif de Dieu quand on s'abreuve. Mais vous savez, quand ça fait un certain temps qu'on ne s'abreuve plus dans sa présence, dans notre culte personnel, on s'y habitue. Et à un moment donné, ça ne nous fait même plus grand-chose. Jésus ne pouvait supporter une seule journée sans rencontrer son Père. Si vous êtes dans ce cas-là, ce message n'est pas donné et ne sera jamais donné pour vous condamner ou vous détruire. Mais quand un médecin montre le problème, c'est parce qu'il a toujours le bon traitement. Amen. Si vous n'avez plus soif de Dieu, quel est le bon traitement? Reconnaissez-le. Confessez-le. Et criez. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. Je me suis laissé avoir par beaucoup de choses. J'ai plus besoin de toi. Remets dans mon cœur, je t'en prie. Et recommencez un petit peu. Au début, peut-être. Parfois, ça dépend. Et des fois, Dieu, tout de suite, on se remet à prier. Tout de suite, sa présence revient. Cette soif revient. Alléluia. Et il y a d'autres fois, non. Je crois avoir compris dans mon expérience personnelle, parce que j'ai vécu les deux à plusieurs reprises, parce que malheureusement, à plusieurs reprises, parfois, je me suis éloigné aussi. Je crois avoir compris que parfois, Dieu ne veut pas aller trop vite avec nous. Il veut que on fasse un peu plus d'efforts, qu'on cherche un peu plus. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Alléluia. La soif de Dieu. Matthieu chapitre 15 maintenant, versets 1 à 20. On va lire à partir du verset 10, on va écourter la lecture. Matthieu chapitre 15, verset 10, ça sera suffisant. Matthieu 15, 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » C'est un peu rassurant, ça, vous ne pensez pas? Moi, je crois qu'il n'y a personne qui sera perdu parce que Jésus gardera tout le monde. Mais il y a peut-être des personnes qui n'ont pas été plantées par Dieu. Alors elles seront déracinées, au final. Nous, on voit superficiellement. Verset 14, « Laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Ce qui rentre dans la bouche, c'est ça qu'il veut, qu'il ne comprenait pas. Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Amen. Alors c'est une constante dans les évangiles entre les religieux et Jésus-Christ. J'ai comme titre sur ce passage, je ne sais pas vous dans vos Bibles, « Verdict sur le cœur humain ». Le Seigneur a toujours été vrai. Et ce qu'il disait est déplaisant pour l'homme. Nous sommes dans un pays humaniste qui met fort en avant l'homme. Et l'Évangile en France est aux antipodes de l'idéologie générale prônée dans notre pays depuis que nous sommes nés. Non, l'homme ne naît pas bon. L'homme naît pécheur. Notre cœur est mauvais. Nous sommes mauvais. Jésus dit, c'est pas les mains, c'est pas le ventre. Le problème, c'est le cœur qui va pas. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Oh, il y a plein de bonnes choses, frère. Ben, c'est la boîte de Pandore quand même. Hein. Mauvaise pensée, meurtre, adultère, débauche. Oh là là, on a envie de dire, mais ce n'est pas moi ça. Et si, c'est moi, c'est nous. C'est chacun d'entre nous. Jésus dénonçait la corruptibilité du péché dans nos vies. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le danger des illusions religieuses. Les pharisiens pensaient être meilleurs que les autres parce qu'ils respectaient toutes sortes de règles. Et vous savez ce qui est terrible pour nous si l'on devient religieux, c'est de croire qu'avec les années, avec toutes nos règles chrétiennes, nous sommes devenus meilleurs que les autres. Mais je vais vous dire quelque chose. La nature humaine, elle sera toujours mauvaise. La chair, elle sera toujours mauvaise. Les aînés nous disaient dans leur enseignement, la chair, on ne la guérit pas, on la crucifie. Comprenez ce que ça veut dire? Savez-vous pourquoi, dans la parole de Dieu, la seule solution à la chair, c'est de la tuer, c'est de la faire mourir, parce que la chair ne s'améliorera jamais. La chair, elle est incurable. Notre mauvais cœur sera toujours mauvais. Il faut qu'il meure. La promesse de la nouvelle alliance, c'est le don d'un nouveau cœur. Alléluia. C'est la régénération par le Saint-Esprit qui nous permettra de vivre de bonnes choses. Alléluia. Mais nous-mêmes, dans notre nature, sans la grâce de Dieu, nous ne pourrons jamais faire le bien. Paul dit, ce qui est bon n'habite pas en moi. C'est le péché qui habite en moi, dans l'Épître aux Romains. Et ça, bien aimé, c'est fondamental. Parce que tous ceux qui ont pris leur baptême, mais qui n'ont jamais vraiment accepté qu'ils étaient mauvais, ont eu une expérience superficielle et qui ne dure pas dans le temps. La base de toute conversion, c'est d'accepter le verdict de la parole de Dieu sur nos cœurs. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés si nous ne sommes pas d'abord perdus. Et les frères nous disaient, l'évangile avant d'être une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle que nous sommes mauvais, incapables de changer,
est si mauvais que nous méritons d'être perdus. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, le seul qui est bon, a offert sa vie pour nous tous. Alléluia. Nous devons, d'après Jésus, veiller sur notre cœur. Ce texte est intemporel. On ne peut pas dire, oh mais ce passage, c'est avant qu'on soit converti. Non, c'est avant, c'est après. C'est tout au long de notre vie chrétienne. Il faudra toujours veiller sur notre cœur parce qu'il sera toujours mauvais. En Jésus-Christ, je suis devenu meilleur. Mais sans lui, aujourd'hui, je suis comme avant que je me sois converti. Et si ce n'est plus l'esprit qui me dirige, mais c'est ma chair, je suis capable de refaire les mêmes choses et très vite que je faisais autrefois. Vous savez, il suffit de la... Je ne vous dis pas de le faire. Mais lâchez un peu la main du Seigneur, vous allez vite voir que vous êtes encore mauvais. Très vite, vous vous en rendrez compte. Alors, Jésus a dit que nous sommes méchants. Eh oui, si méchants comme vous êtes, vous savez de bonnes choses à vos enfants. Donc, ce n'est pas parce qu'on est capable de faire de bonnes choses et de faire du bien que ça fait de nous des gens bien. Puisque Jésus dit qu'on est méchant, mais même si on est méchant, on peut quand même faire du bien à nos enfants. Ça, c'est plus quand même... C'est quand même à notre portée de faire ça. Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Se connaître nous-mêmes? Non. Sonde-moi, ô Dieu. Et regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi dans la voie de l'éternité. L'homme de Dieu, dans le psaume, se méfie de son jugement qu'il a sur lui-même. Et il dit non, sonde-moi, ô Dieu, toi, et regarde si je me trompe, pour me conduire dans la bonne direction. Alléluia. Et oui, le péché nous a enlevés une certaine clarté sur nous-mêmes. Il faut donc veiller sur son cœur plus que sur les autres. Vous savez que nous avons un problème avec cela. Nous pensons que le problème, c'est surtout les autres, la société, l'église, le frère, la sœur. Le problème, Jésus ne nous dit pas, veille, fais attention aux autres plus que tout. Il dit, fais attention à toi plus que tout. Le cœur, dans la Bible, ça n'a pas la même signification qu'en français. En français, quand on dit le cœur, c'est surtout l'émotion. Mais dans la Bible, le cœur, c'est le centre de la personnalité. C'est le fond des choses. Quand il est écrit que c'est dans notre cœur qu'il y a tout ça, c'est-à-dire que c'est au fond de nous. Et vous savez, c'est comme un vin. Des fois, au fond, il y a du dépôt. En surface, et même des fois, vous penchez un peu le verre, oh, c'est beau. Mais puis, vous buvez, et vous voyez à la fin, il y a du dépôt. Bah, notre cœur, il y a ce qui est en surface. Belle couleur. Bon millésime. En surface. Mais il y a le dépôt. Il y a ce qui est au fond de nous. Et vous savez, je crois que si le Seigneur nous montrait ce qu'il y avait au fond de nous, je crois qu'on dirait aussi comme Esaïe, qui était quand même pas moins mauvais que nous, je crois. Malheur à moi. Malheur à moi. Et ce qui m'a toujours étonné dans ce passage, il dit, mes lèvres sont impures. Ça m'a toujours étonné. On en dit des choses. Hein. Et quand Dieu le visite, peut-être qu'il s'entendit dire tout ce qu'il a dit. Et il y avait un problème pour lui. Il était prophète. Il disait la parole de Dieu. La parole de Dieu passait par sa bouche. Mais quand Dieu le visite, mes lèvres ne peuvent plus te servir. Mes lèvres ne peuvent plus t'utiliser. Excusez-moi, bien-aimé, c'est pas étonnant que vous ayez du mal à servir Dieu en priant avec vos lèvres, si avec les mêmes lèvres, vous avez dit n'importe quoi. Comment ces lèvres impures peuvent glorifier Dieu? Eh bien, dans ce passage, c'est l'ange qui prend une pierre de l'autel et qui vient purifier les lèvres. Une pierre brûlante, normalement, ça vous brûle, hein. C'est, ne faites jamais ça. Mais dans Ésaïe 9, un ange prend une pierre brûlante. L'image de la croix, l'incandescence de la croix vient purifier les lèvres mauvaises du prophète. Alléluia. Dieu soit béni. Quelles que étaient nos fautes et nous avons dit des choses graves, le Seigneur peut nous purifier. Alléluia. La Bible, alors, il y a beaucoup de déni, vous savez, pour refuser qu'on... Vous savez, la psychologie, on pense que c'est nouveau, mais ça fait bien longtemps que la Bible parle de la nature humaine. Et bien avant la psychologie, la Bible dénonçait la complexité du cœur humain. Bien avant. Sauf que contrairement à la psychologie qui essaye de trouver un remède de l'homme par l'homme, avec la Bible, nous croyons que l'homme ne peut véritablement être guéri que par Dieu, son Créateur. Alléluia. Alors, quels sont nos dénis ? L'enfouissement. Des fois, on enfouit des choses. Vous savez pourquoi ? Ça fait trop mal de les voir et de les reconnaître. Il y a des choses dans nos vies qui nous font trop mal, alors on s'en rend pas compte, mais on fait comme si elles n'existent pas. La projection, plus que vous ne le pensez, on projette sur les autres ce que nous sommes. Alors on dit, ah, il m'aime pas celui-là. Et en fait, c'est nous qui l'aimons pas. C'est un phénomène aujourd'hui, en psychologie, bien acté. Ce sont des mécanismes de protection humains. C'est notre mauvais cœur qui ne veut pas se dévoiler. Un autre mécanisme, la justification. Oui, j'ai fait ça, mais vous comprenez, il fallait bien que je mente. Si je mentais pas, ça aurait été pire. Ok, d'accord. C'est Saül qui dit, j'ai péché, mais c'est pas de ma faute. C'est parce que tout le monde s'en allait. Puis toi, t'es un peu en retard, Samuel. La victimisation. Ah, on est fort pour ça, des fois. Au lieu de reconnaître nos torts, on va plutôt dire que l'on souffre de la part des autres. La Bible dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Amen. Je sais que c'est dur d'avouer, frères et sœurs. Je le sais. Je suis comme vous. Mais confessons nos péchés. Je parle au Seigneur, hein. Parce que même au Seigneur, c'est difficile d'avouer. Mais confessons nos péchés, avouons. Des fois, pour tirer des aveux, c'est compliqué. Hein. Avec vos enfants, ça vous est jamais arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Je pense d'abord à la question. Tu étais où tel jour, telle heure? Pourquoi tu me poses cette question? Bon, déjà, ça commence pas très bien. Tu penses pas que, ah non, 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 et puis après, on finit. C'est difficile. Hein. Je pense des fois que le Seigneur fait ça avec nous. Et on met du temps pour craquer. Mais je vous assure que ça fait un bien fou de craquer. Et d'avouer nos fautes. Parce que là, enfin, on est libéré. Parce que tant qu'on garde nos trucs, ça nous ronge, ça nous détruit. Et le diable l'utilise comme un cancer. Mais quand on avoue nos fautes, jamais le Seigneur ne nous le reprochera. Jamais. J'aime beaucoup ce cantique, sans faire aucun reproche, sans faire aucun reproche. Il accorde le salut aux pécheurs perdus. Alléluia. Enfin, je termine en disant quand même, nous sommes des méchants justifiés. Alléluia. C'est vrai que nous sommes encore des méchants selon notre nature, mais nous sommes devenus des justes par la grâce en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des méchants justifiés. Hein? C'est l'équilibre qu'il faut avoir en tant que chrétien. Il ne faut pas se prendre vraiment que pour des mauvais et des méchants, mais ce qui nous secourt, c'est la réalité en Jésus-Christ. C'est notre position en Jésus-Christ. Mais ce qu'il ne faut jamais penser, c'est que notre position en Jésus-Christ a fait de nous des gens bien. Non. Nous avons encore un cœur où il faut faire très attention parce qu'il continue d'être méchant. Mais en Jésus, nous sommes justifiés et lui nous transforme et nous change. Et nous pouvons porter de beaux fruits pour lui. Alléluia. Dieu soit béni. Allez, avant-dernier passage, Matthieu chapitre 16, verset 5. Matthieu 16, verset 5, verset 12, et on terminera avec le verset 12. Matthieu chapitre 16, verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Voilà, pour aller vite, ils comprirent que ce n'était pas du levain. Il y a une incompréhension entre Jésus et ses disciples. Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens, des sadducéens. Et eux, ils se disent, ah, on a oublié le pain qui est resté de la multiplication. On a oublié les corbeilles de pain. Ils nous le reprochent. Ils nous parlent de ça. Jésus le sait, le devine et leur dit, non, vous ne comprenez pas là. Rappelez-vous les deux multiplications de pain. Combien de corbeilles de pain vous avez récupéré? Plein. Donc je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas du pain physique. Je vous parle d'autre chose. C'est le levain des pharisiens, c'est leur enseignement. Pourquoi ça m'a interpellé ce passage? Parce que je me suis dit, vous savez, bien aimé, des fois, on peut avoir des incompréhensions entre nous, comme les disciples en ont eu avec Jésus. Mais les disciples commençaient à partir trop loin. Ah, ils nous reprochent, ils pensent au pain, on n'a pas pris, on n'a pas assumé. Ils se sentent, vous savez, vous ne trouvez pas qu'on se sent très vite accusé? Et qu'on se met très vite sur la défensive. Et qu'on interprète, qu'on imagine, et qu'on donne trop d'importance à des détails. Parce que, excusez-moi, oublier du pain, c'est pas grave. Ah, t'as oublié du pain, c'est pas grave. On n'est pas dur entre nous. Ça arrive d'oublier. Ça arrive de se tromper. Jésus n'est pas comme cela. Il pensait même plus, le Seigneur, à ses pains, qu'ils avaient oublié ses corbeilles. Il parlait pas du tout de ça, il était sur un autre niveau. Parler du levain des pharisiens, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais eux, ils supputaient, ils imaginaient. Nous, nous soupçonnons. Et puis, ils cachaient quand même, parce que c'était des raisonnements à raisonner. C'est écrit dans le passage un peu en avant, ils raisonnaient. Nos raisonnements. Bien-aimés, faisons attention à nos raisonnements, parce que je pense des fois que notre tête, elle gamberge trop, et qu'elle peut nous faire bien du mal, bien des souffrances, au lieu de rester à écouter le Seigneur Jésus et à le suivre. Amen. Attention à nos raisonnements. Le langage de Jésus était parfois difficile, je le reconnais. Il était parfois difficile à comprendre, mais en fait, à comprendre pour nous. La parole de Dieu, elle n'est pas difficile à comprendre, mais elle est difficile à comprendre pour nous. Et comme les disciples, nous avons parfois besoin d'un certain temps pour mieux comprendre ce que le Seigneur nous a dit. Et je termine avec le dernier verset de l'Évangile, avant peut-être de prendre la scène ensemble, Matthieu 28, si vous voulez bien lire avec moi. Il est dit, Matthieu chapitre 28, verset 19. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Je terminerai par ce que j'ai commencé, Jésus allant dans toutes les villes, côtoyant les gens de mauvaise vie, et Jésus qui dit à ses apôtres, c'est à votre tour, allez. Allons. Répandons la bonne nouvelle. Faire de toutes les nations, les Noirs, les Arabes, les Blancs, de toutes les nations. Il ne faut pas aller au bout de la terre pour voir qu'il y a des gens qui ne connaissent rien à l'Évangile. Il y en a ici à 200 mètres. Il y a des gens qui... Moi, je ne connaissais vraiment rien de l'Évangile. Je ne savais même pas que Jésus était mort sur la croix pour les péchés. Et il y en a en France... peut-être des millions comme cela. Allons, pour porter, afin qu'ils soient baptisés et apprendre tout ce que le Seigneur a dit. Quel programme! Parfois, je terminerai avec cela, on a dit qu'il y a être chrétien et il y a être disciple. Mais pour Jésus, on est disciple dès qu'on est baptisé. Et on est disciple tout au long de sa vie. Le temps d'apprendre tout ce que le Seigneur a enseigné. Amen. Il n'y a pas une catégorie chrétien simple et chrétien disciple. Ça n'existe pas. Dès le baptême, nous sommes devenus des disciples de Jésus-Christ pour toute la vie. Toute la vie, nous serons des disciples, c'est quoi ? Des élèves. Alléluia. Tout simplement. Et nous aimerions aller et faire de ceux que nous rencontrerons des élèves de Jésus-Christ pour toute leur vie. Amen. Voilà. Levons-nous à nos places, on va prendre la scène ensemble suite à ce message, s'il vous plaît.